le 7-9. Sur France Inter.
L'invité du grand entretien de France Inter est le secrétaire général de la CFDT, réélu à la tête du syndicat il y a 3 jours sur le score plutôt explicite de 94,4% des voix. Les questions de Léa Salamé dans 10 minutes, les vôtres au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Vous voilà leader maximo du principal syndicat réformiste français. Vous avez clairement exposé votre volonté d'aller à la bataille. Nous ne nous laisserons pas faire, avez-vous dit à plusieurs reprises. Vous avez décrit une ligne nettement plus offensive également. Alors pourquoi est-ce que ce sont là ces phrases, ces mots, des effets d'estrade ou une nouvelle stratégie plus musclée maintenant que vous connaissez mieux Emmanuel Macron, sa manière de gouverner et ses options politiques ?
Non, ce ne sont pas des effets d'estrade parce que justement les congrès de la CFDT, on évite ces effets d'estrade pour aller sur le fond des sujets et ça fait quand même quelques mois. Quelques mois que j'alerte en disant attention, attention sur la méthode, qui est une forme de mépris des corps intermédiaires et des organisations syndicales, et attention sur des politiques sociales qui n'existent pas et qui sont bigrement absentes et qui finalement font une politique très déséquilibrée et qui ne réduit pas les inégalités qui, comme chacun sait, est le moteur de la CFDT.
On va y venir en détail, ça, mais jusqu'à présent, vous tendiez la main dans le vide à l'exécutif. Là, vous dites... On est là et on n'acceptera pas un certain nombre de choses. Donc il y a bien tout de même un changement de température ou de méthode.
Je dis à la fois, nous n'accepterons pas un certain nombre de choses. Je prends par exemple la question des aides sociales. C'est une évidence. La CFDT n'acceptera pas que la vision qui soit développée soit une vision baissons les aides sociales en masquant, soi-disant, derrière des choses autour de l'inefficacité, etc. En tout cas, on ne reviendra pas sur la solidarité. On ne baissera pas la garde sur la solidarité. Et de l'autre côté, on dit, mais monsieur le président, organisez au début septembre un sommet social avec les organisations syndicales et patronales. Dites ce qu'est votre cap. Et regardez comment il peut y avoir, par le biais du dialogue social, de la co-construction dans notre pays et pas simplement d'une forme d'arrogance telle qu'elle est développée aujourd'hui. C'est assez clair. C'est pas, nous ne voulons plus vous parler, nous sommes dans l'opposition systématique. C'est nous sommes là. Nous sommes là. Nous représentons les travailleurs. Il y en a d'autres qui représentent les employeurs, d'autres organisations syndicales. Est-ce que vous allez continuer à faire sans la société civile? Si vous continuez, vous allez dans le mur.
Vous avez demandé donc ce sommet social à la rentrée. Vous avez reçu une réponse, des éléments de réponse à ce stade?
Non, pour l'instant, évidemment, non. C'est encore tout récent, hein. C'est la semaine dernière, mais je réinsiste. De la même manière que je pense que les partenaires sociaux, entre eux, les organisations syndicales et patronales, et là-dessus je suis en accord avec Pascal Pavageau de Force Ouvrière, par exemple, doivent construire un agenda social autonome, où ils doivent construire des sécurités pour les travailleurs, une meilleure qualité de vie au travail. Enfin, on a aussi des choses à faire. On ne va pas rester pendant 4 ans, parce qu'il reste 4 ans, on ne va pas rester comme ça, à regarder ce qui se passe avec une forme d'arrogance du pouvoir. Donc, il faut qu'on prenne aussi nos propres responsabilités.
3 économistes, donc, proches d'Emmanuel Macron, très proches même, Philippe Aguillon, Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry, appellent dans une note confidentielle mais publiée ce week-end par Le Monde à un rééquilibrage social de la politique gouvernementale. Il importe de se montrer aussi audacieux dans la lutte contre les rentes et les privilèges d'en haut que dans le combat contre les corporatismes d'en bas. Il y a urgence d'après vous, à faire ce rééquilibrage, la politique est à ce point hémiplégique ou boiteuse ?
Oui, elle est totalement boiteuse, pour reprendre votre terme. Il y a urgence, plus qu'urgence. Enfin, la politique fiscale menée depuis le début de ce quinquennat, qui a privilégié les plus riches au détriment des plus fragiles, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a moins de consentement à l'impôt de la part de ceux qui ont plus de moyens, eh bien, on creuse des inégalités et on renonce à la solidarité. Et donc, dans le même moment, enfin, l'ISF, les contrats aidés, la flat tax, les aides sociales, on peut faire ça, ce petit jeu pendant des heures. Donc oui, il y a urgence. Et quand ce sont des économistes qui ont travaillé, chacun le sait, avec M. Macron.
Au programme, à sa construction.
Au programme. Quand c'est un de ces économistes, mais aussi d'autres, disent pendant l'hiver dernier qu'il y a un problème sur la politique migratoire, quand on dit qu'il y a un problème en termes de reconnaissance des corps intermédiaires, enfin, regardez ce qu'ils le disent. Ce ne sont pas, a priori, des gens qui veulent se positionner dans une opposition politique. Ce sont des gens qui ont envie que ça réussisse. Pas que M. Macron réussisse, ça, c'est pas mon problème. Que la France réussisse. Et pour l'instant, on n'est pas On n'est pas parti pour ça. Donc il faut que ce soit entendu. Si c'est pas entendu, oui, je crois qu'on va avoir de gros gros problèmes, de gros problèmes de solidarité qui va se déliter, et c'est ce qui fonde notre pacte social.
Quand vous reprenez le terme Laurent Berger en disant qu'il y a un déséquilibre, ça penche trop vers quoi ? Vers la droite, vers le libéralisme, vers un modèle anglo-saxon, vers quoi d'après vous ? Comment qualifier les choses ?
Si on se positionne sur une échelle politique, ce qui est pas ma façon de faire, mais ce serait vers la droite. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Si je crois que ça penche vers une conception assez anglo-saxonne et pas du tout nordique du modèle social. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on donne aux plus fragiles de quoi subsister et qu'ils se débrouillent. Et ensuite, on fait se développer, on libère l'économie et puis on espère qu'un jour ça retombera, y compris les plus fragiles, parce qu'on n'est quand même pas des sauvages. Ça, c'est pas ma conception et ça marche pas. Et donc, je pense que c'est vers ça que ça tend. Une forme de chacun pour soi, mais quand même, on assure le filet de sécurité très minimal. Moi, je suis pour une société d'émancipation, où la solidarité a du sens. Je suis pour le consentement
aussi
à l'impôt.
Eux aussi, non, au gouvernement, dans l'exécutif, non, dans la majorité, le mot émancipation, on l'entend tout le temps.
Oui, mais une émancipation individuelle et collective, c'est ce qu'est notre marque de fabrique. Ça veut dire la capacité donnée aux citoyens et aux travailleurs en particulier d'avoir du poids sur les choix qui les concernent. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est fait. C'est en gros, on va s'occuper de tout, laissez-nous faire, et vous verrez que ça se passera bien. Eh bien non. La société, vous savez, ce n'est pas un fil. Il y a une épaisseur de la société, des réalités extrêmement diverses, selon les territoires, selon les secteurs, selon les situations des uns et des autres, et ça nécessite qu'on écoute les corps intermédiaires. Il y a une très belle tribune aujourd'hui, dans un quotidien, de Claire Hédon, qui est la présidente d'ATD Quart-Monde, qui explique en quoi la politique de lutte contre la pauvreté, ça ne peut pas être fait sans les acteurs de la pauvreté, qui luttent contre la pauvreté. Eh bien ça, c'en est un exemple encore, qu'on n'a pas besoin de leçons en permanence, en nous expliquant ce qu'il faudrait qu'on comprenne, qu'on n'aurait pas compris. On a besoin qu'on nous écoute.
Philippe Aguillon, il y a 10 jours au micro de France Inter, disait la chose suivante : si on fait du Thatcher, on obtient le Brexit. Si on fait du Reagan, on obtient Trump. C'était ça la lecture politique qu'il faisait des choix économiques. Est-ce que la dérive populiste, pour le dire vite, ou anti-système, est-ce que c'est ça le risque ultime ?
Vous savez, la semaine dernière au Congrès, j'ai dit que à mener une politique telle qu'elle est conduite aujourd'hui, on arrive à des populismes en France. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier que si nous étions dans un système électoral qui était équivalent à celui de l'Italie, nous serions en Italie aujourd'hui. Et que nous, ce qu'on constate, et ce que nous ont dit les congressistes, c'est dans les entreprises un poids des idées du Front National et du Front National qui est encore extrêmement important, voire peut-être plus important qu'il y a un an. Et donc, moi je dis oui, à mener des politiques qui mettent de côté les corps intermédiaires, qui considèrent que la démocratie, on est quitte de la démocratie une fois l'élection passée, eh bien, on renforce les populistes.
La France n'est pas immunisée par nature du risque populiste ou anti-système.
Non, mais non seulement elle n'est pas immunisée, mais enfin, elle a quand même été elle a un peu égrenée en Europe, si je peux me permettre. On ne va pas quand même donner des leçons à nos collègues européens. Ça fait quand même, c'est 2002 le Front National au premier tour ici, 2002, donc c'est pas avant-hier, hein, c'est avant-avant-hier, donc ça fait longtemps. Donc on n'est pas immunisé du tout, au contraire.
Quand Agnès Buzyn, Laurent Berger, dit vouloir mesurer l'efficacité d'un certain nombre d'aides sociales, vous avez semblé critiquer ça il y a quelques instants, au début de cet entretien. Pourquoi ne croyez-vous pas qu'il puisse y avoir une politique d'évaluation, oui, de l'utilité, de l'efficacité de ces aides ?
Non mais d'abord, quand Madame la Ministre de la Santé et des Solidarités le dit, j'ai tendance à avoir envie de la croire, parce que je connais sa crédibilité. Mais à une seule condition, c'est que l'efficacité, c'est quoi ? L'efficacité, c'est est-ce qu'on permet aux personnes qui bénéficient de ces aides sociales de vivre à peu près dignement ? Et chacun d'entre nous dans ce studio sait que ce n'est pas totalement dignement quand même. Et est-ce qu'on leur donne les moyens de rebondir, de se réinsérer socialement, économiquement ? Et la question, c'est quelle politique d'accompagnement on fait ? Donc moi, ce que je défends, c'est un niveau de solidarité élevé pour que on ait un revenu décent dans notre pays, même quand on est en situation de fragilité et de pauvreté, et en même temps, on soit accompagné pour retrouver un travail, retrouver une insertion sociale, une insertion professionnelle digne de ce nom. Et c'est ça qui est en jeu. Et donc, ça nécessite de la dépense publique. La solidarité, ça a un coût. La solidarité, c'est pas un mot, c'est aussi des politiques menées. Et ça a un coût. Est-ce qu'on est capable de le faire ? Est-ce qu'on accepte encore longtemps d'avoir 5 millions de pauvres dans notre pays, dont une grande part sont des enfants de moins de 10 ans ? Eh bien, la réponse est non pour la CFDT. Donc, si c'est pour mesurer l'efficacité et les rendre plus efficaces, oui. Si c'est pour faire moins, non.
Laurent Berger au micro de France. France Inter. Il est 8h32. Léa Salamé.
Laurent Berger, 2-3 questions d'actualité. Le gouvernement veut mieux protéger les salariés de Deliveroo et d'Uber. Désormais, une charte de responsabilité sociale sera imposée à ces entreprises. Les chauffeurs Uber ou les livreurs Deliveroo seront mieux protégés. Ils auront une assurance, mais en échange, ils ne pourront plus attaquer l'entreprise pour avoir un CDI ou un vrai contrat de travail. Est-ce que ce deal vous semble acceptable?
Je crois, nous, on vient de décider au Congrès d'organiser ces travailleurs en plus fortement qu'on ne le fait alors. On est déjà implanté chez les VTC ou dans d'autres secteurs de ce type. Il y a besoin de couverture, enfin d'une forme de couverture collective pour ces travailleurs. Mais jamais ça peut être vous avez une couverture et s'il y a un abus, vous pouvez rien faire. Ça peut pas être le cas. Vous savez, quand vous êtes couvert par une convention collective, vous êtes un travailleur, vous avez une couverture. S'il y a un abus, vous pouvez malgré tout aller devant les tribunaux pour
réparer. Donc vous trouvez que c'est pas acceptable Moi, je ne crois pas à
la généralisation du statut salarié pour ces travailleurs, parce que tous ne le demandent pas. Donc il faut tenir compte de ça. Mais je pense qu'il faut des accords collectifs, de la représentation collective. Moi, je préférerais que le gouvernement, là, il nous dise... Écoutez, travailler à du dialogue social dans ce secteur-là, à de la confrontation des idées pour construire du droit, plutôt que de prendre la main sans même nous avoir interpellés. Sans même nous avoir interpellés sur ce sujet-là.
Donc là, sur Deliveroo, Uber et tout ça, vous regrettez qu'on ne vous
Je
ait pas, que les syndicats n'ont pas été consultés.
Je suis d'accord avec l'idée qu'on donne de la protection. Et on a déjà commencé, hein, la loi El Khomri, il y avait de la protection hein, sur les conditions de travail, sur la formation. Qu'on continue de construire de la protection, mais qu'on construise aussi du dialogue social, de la représentation des intérêts de ces travailleurs, qui sont les travailleurs indépendants, à l'égard de leur donneur d'ordre économique.
Air France toujours dans l'actualité. On se souvient des mots très durs que vous aviez eus pour les pilotes, les syndicats de pilotes. Vous aviez soutenu le plan du président Janaïa qui a dû démissionner après le référendum. Un nouveau préavis de grève a été déposé par l'intersyndicale du 23 au 26 juin. Est-ce que vous la soutenez?
Non, la CFDT d'Air France ne la soutient pas. Vous savez, ça s'appelle aller dans le mur et appuyer sur l'accélérateur, cette grève. C'est exactement ça. C'est aller dans le mur, appuyer sur l'accélérateur pour que ça fasse plus mal. Et donc, de la même manière que nous ne soutenions pas la grève précédente parce qu'il y a un secteur qui est extrêmement en difficulté, on ne soutient pas cette grève-là. La CFDT d'Air France ne la soutient pas. Et il y a besoin davantage de dialogue social. Il faut arrêter que les pilotes, enfin en tout cas un syndicat de pilotes...
Ça veut dire quoi, il faut arrêter avec les pilotes?
Il faut arrêter qu'un syndicat de pilotes avec un leader du SNPL, et c'est pas tout le SNPL, et c'est évidemment pas tous les pilotes, dicte sa seule volonté à cette compagnie qui
Ils
va aller...
Ils prennent en otage Air France?
Je ne reprendrai pas ce terme, je fais attention avec ce terme, mais en tout cas, ils instrumentalisent un certain nombre de salariés au sol qui vont payer très cher, si ça continue, pour le seul intérêt d'un leader syndical.
L'État menace de céder 15% de ses parts dans Air France, ses 15% de parts dans Air France, au groupe Accor. Ce serait une erreur?
En tout cas, ce serait la démonstration que quand on mène une stratégie dans une entreprise qui est de s'adresser à un actionnaire qui pèse 15%, fût-il l'État, au lieu de développer du dialogue social digne de ce nom dans cette entreprise, eh bien, on donne du grain à moudre à ce style d'option.
C'est votre mot préféré, hein, dialogue?
Mais
vous
oui, c'est mon mot préféré parce que.
Matin.
Mais vous savez, mais oui, mais ouais, je sais pas si ça fait 18 fois. Vous êtes très forte si vous avez réussi à calculer. Mais
j'exagère un peu.
Ouais, mais c'est pas grave. Mais vous savez, on est dans une situation très très compliquée, politiquement, socialement, économiquement. C'est pas totalement fini. Il y a un rebond, mais je sais pas s'il y a une reprise. Et on peut continuer à se foutre sur la gueule, excusez-moi le terme, tant qu'on veut dans notre pays, en faisant croire que c'est bloc contre bloc. Je vois bien que ça sert un peu des intérêts multiples. Je pense que c'est une impasse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas mon confort, parce que si c'était mon confort, je peux vous assurer que je ferais la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est simplement qu'à un moment donné, on mette les enjeux sur la table. À Air France, c'est quoi les enjeux? C'est le survie de la compagnie. Il faut pas qu'on se raconte d'histoire. C'est le survie d'une compagnie dans un monde ultra concurrentiel. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on est capable de monter un dialogue? La grève, elle va avoir lieu alors qu'on sait tous que Madame Couder, qui assure l'intérim de la direction, n'a pas les coudées franches pour négocier, parce qu'ils ont dit on négociera pas tant qu'il y aura pas une nouvelle direction. Bah, attendons la nouvelle direction.
Allez, intervenez au standard 01 45 24 7000. Bonjour et bienvenue, Romain.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Delbleu.
Bonjour.
La France a un niveau de dépenses publiques qui est un des plus hauts au monde, derrière les îles Kiribati. Est-ce que, quand vous dites que le gouvernement réduit la solidarité, Vous ne voulez pas dire en fait qu'il réduit le nombre de fonctionnaires et est-ce qu'il ne faut pas rendre l'État plus efficace ?
Merci Romain pour cette question. Laurent Berger.
Oui, l'État plus efficace, mais c'est quoi l'efficacité de l'État ? L'efficacité de l'État, c'est de permettre évidemment du développement économique, c'est de permettre de l'aménagement du territoire, où il reste beaucoup à faire sur les territoires les plus délaissés, puis c'est aussi de permettre de la solidarité. S'il y a un haut niveau de dépenses publiques, on peut regarder comment on le dépense mieux, cet argent. Mais je crois qu'il faut se réjouir que, y compris, même si je dénonce les inégalités, qu'on est dans un pays où un certain nombre d'inégalités sont moins marquées que dans d'autres pays. Bah, c'est parce qu'on fait ce haut niveau de dépenses publiques. Mais moi, la CFDT, elle n'a jamais été contre l'idée qu'on regarde l'efficience des politiques publiques, mais pour améliorer les choses et pas au détriment des plus fragiles. Deuxième élément, il faut une politique fiscale, enfin, il faut qu'on rediscute de la fiscalité dans notre pays. On est en train de faire reculer le consentement à l'impôt. C'est dramatique dans un pays tel qu'on veut le construire. Et on peut pas se dire, on peut pas s'inspirer des Nordiques et puis faire l'inverse de ce qu'ils font.
Question de Gilles, pourquoi dans les centrales syndicales, nous n'arrivons pas à savoir le nombre exact de syndiqués ?
Bah, la CFDT, vous le savez maintenant, vous savez depuis 3 semaines à moi, on a fait attester 623 802 adhérents au 31 décembre 2017. Nous avons décidé de faire attester notre nombre d'adhérents par des commissaires aux comptes. Voilà, nous avons fait cette vérité des prix, cette transparence pour deux raisons. Pour ne pas être accusé à tort et puis deuxièmement pour essayer de faire beaucoup plus.
Sandrine de Nantes, accepteriez-vous qu'une responsable nationale de la CFDT porte le voile lors des réunions syndicales et lors d'interviews télé ?
Écoutez, dans les réunions syndicales, ça peut dans les sections syndicales, ça peut arriver dans un certain nombre de secteurs professionnels. J'ai pas à le juger. Nous ne sommes pas une publique entre guillemets, une fonction publique.
Et dans les fonctions après, de représentation.
Je pense que on a acquis chèrement notre déconfessionnalisation à la CFDT. J'ai pas tellement envie de faire le chemin inverse. Donc
vous comprenez l'UNEF ce qui s'est passé ?
Je trouve que c'est j'avoue que la défense qu'a fait l'UNEF sur cette affaire-là me paraît ahurissante. Je ne conteste pas du tout à la jeune femme qui porte le voile de le porter, mais je trouve que la défense qui a été faite j'aimerais pas que la CFDT le fasse et elle le fera pas.
Josette de Toulouse vous demande la chose suivante. Monsieur Berger, ne pensez-vous pas que le gouvernement n'a pas d'autre choix que de durcir le ton face aux grévistes puisque les responsables syndicaux soufflent sur les braises? Laissez le gouvernement appliquer le problème pour lequel le président a été, le programme, pardon, pour lequel le président a été élu.
Vous savez, ça, c'est la conception d'une démocratie ancienne. C'est-à-dire que je suis élu et j'ai les manettes pour 5 ans. Ça ne marche plus comme ça, vu la rapidité des événements. Donc, je pense que la société, c'est au-delà d'un élu par le peuple, c'est aussi les corps intermédiaires.
David est au standard. David d'Ajaccio, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour à tous. Bonjour François-Pierre, merci pour la qualité de vos émissions et un spécial merci à Bernard Guetta.
Ah bah,
il vient de quitter le studio,
mais on lui transmettra. Allez-y, David. Ah bah on a perdu David après les remerciements à Bernard Guetta. Vous êtes toujours là ? Non, vous n'êtes pas là ? Léa, une question ?
Une question. Bon, le sujet est immense, donc on ne va pas le traiter en une minute, mais ce sera la grande réforme à venir d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites. Une grande consultation citoyenne a lieu en ce moment même. Pour être très clair, on va arriver au système par points. Quelle est la ligne rouge que vous fixez à la CFDT ?
D'abord, la répartition, mais ça, il a dit qu'il maintienne un haut niveau de solidarité et qu'on ne revienne pas sur les droits acquis jusqu'à aujourd'hui.
Ce sont les deux lignes rouges.
En tout cas, c'est deux points d'attention très très forts. Enfin, oui, c'est des lignes rouges si vous voulez. Mais qu'on ne revienne pas sur la solidarité, les systèmes de solidarité qui permettent, parce qu'il y a des inégalités pendant les carrières, pour les gens qui sont en carrière longue, qu'on ait métier pénible, pour les femmes qui souffrent de discrimination pendant leur carrière professionnelle, qu'on réajuste pendant les retraites, ce qui ne veut pas dire qu'on ne lutte pas pendant le monde du travail contre ces inégalités.
Et sur tous ces dossiers, y compris pour les lignes rouges dont vous parliez à l'instant, comment allez-vous travailler, éventuellement vous opposer ? C'est peu dire que les syndicats ont eu du mal depuis un an sur la méthodologie, les formes même de l'action et du coup l'efficacité.
Bah, d'abord, si on prend la question des retraites, nous on va lancer dès demain une enquête en ligne qui s'appelle Parlons Retraite. J'invite tous les auditeurs à aller sur Parlons Retraite, qui va permettre de aussi recueillir l'avis des travailleurs. C'est parallèle à ce que fait le gouvernement et c'est pas contradictoire, mais enfin ça se veut complémentaire, si vous voyez ce que je veux dire. Après, moi je crois qu'on a intérêt, les organisations syndicales, à se réinterroger à la façon dont on entraîne les travailleurs derrière nous. Je l'ai dit au Congrès, Nous, on va lancer un chantier pour savoir c'est quoi aujourd'hui les formes de mobilisation qui sont attendues par les travailleurs. Mmh. Évidemment, ça continuera d'être la manifestation à certaines occasions, mais on doit pouvoir entraîner autrement, soit par en recueillant davantage la parole des salariés concernés. Nous, on a été très puissants sur la question du travail ces dernières années, parce qu'on a fait cette grande enquête qui s'appelait Parlons Travail. Je pense que dans le rapport de force, dans le rôle de contre-pouvoir qu'est le nôtre, il faut qu'on se réinterroge sur nos stratégies. Donc, CFDT est en train de le faire.
Vous pensez donc qu'il y a une crise des modes d'action.
Oui, vous savez, regardez ce qui s'est passé sur les fonctionnaires, la dernière mobilisation du 22 mai, et j'en parle parce que nous, on y était, donc comme ça, j'accuse personne. On voit bien, il y a eu du mal à avoir des manifestations très remplies. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à d'autres modes d'action pour peser, pour mener le rapport de force. La négociation en fait partie, c'est un mode de rapport de force.
Si jamais le gouvernement passait par ordonnance sur les retraites, vous trouveriez ça totalement...
On ne peut pas lancer une concertation pendant un an et passer par ordonnance. Alors là, du coup, ça serait se tirer une balle dans le pied de la part du gouvernement. Mais après tout, on aura tout vu. Hein, non, je crois pas.
Merci Laurent Berger, monsieur 94,4%, patron de la CFDT. Merci d'avoir été au micro de France Inter. 8h43, le carrefour du 7-9 est à suivre.